franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Les carnets, toujours dans les Hauts-de-France, mais cette fois dans le département de l'Aisne. On continuera la semaine prochaine dans la Somme. Je vous avertis au passage, comme ça vous pouvez préparer le terrain. L'Aisne, un long territoire étendu depuis le département du Nord au Nord et la Seine-et-Marne au Sud. Lens, Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons et Vervins. 540 000 habitants que l'on retrouve principalement dans les quelques agglomérations citées, hormis Vervins qui n'est qu'un bourg très modeste. Le reste du territoire est donc rural et agricole. Comme je vous parle de ville, c'est à Château-Thierry que nous allons nous rendre pour rejoindre notre premier témoin. Il est architecte et concepteur de maisons du futur. La première fut la sienne, en version bioclimatique, et les autres sont totalement écologiques. Et en terre crue, il s'appelle Thierry Bonne. Puis nous nous rendrons dans une petite commune qui fut le siège d'un grand groupe industriel, Saint-Gobain, fermé depuis 1995. La manufacture a conservé ses murs et ses souvenirs, comme celui du verre, qui a indirectement inspiré l'association Gaïa et son festival des verres solidaires, sauf que l'orthographe diffère. Explication dans la seconde partie avec Yvain Brochaud, président de l'association.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Thierry Bonne, bonjour.
Bonjour.
Thierry, vous amenez un vent nouveau dans la construction. Vous n'êtes pas le premier, mais vous êtes quand même un des plus combatifs en tant qu'architecte dans la construction en terre crue. Vous êtes diplômé de l'École spéciale d'architecture de Paris. Vous exercez dans l'Aisne. On vous doit l'office notarial de Château-Thierry. Alors là, qui n'est pas du tout en terre crue. Hein.
Non, pas du tout. C'est en Cortaine. C'est un acier autopatinable parce qu'en fait c'est par rapport à l'activité notariale.
Oui. Et vous avez joué sur les parois, d'ailleurs je le note au passage avec un lettrage, les termes notariés, enfin ceux qui reviennent le plus souvent. Ensuite, non pas que vous soyez amusé, mais vous avez réhabilité une maison, votre maison, qui était une maison du grand architecte Monsieur Legault, de 1970, qui ressemble à pas grand chose. Vous avez enlevé la toiture, vous avez gardé le rez-de-chaussée, vous avez ajouté des armatures fer avec du bois à l'étage, avec des ouvertures, il y a beaucoup de lumière chez vous. On essaie de capter pour avoir un maximum d'énergie extérieure, pour avoir la plus basse consommation possible.
Exactement. En fait, tout l'étage, il n'y a quasiment pas de chauffage, parce qu'on régule absolument le chauffage uniquement avec cette grande baie vitrée qui est plein sud.
Alors, vous avez été primé, vous avez reçu une mention spéciale du jury Terra Award 2016, pour une éco-résidence des Sanciers. L'ensemble, c'est 370 mètres carrés, regroupant 4 logements indépendants en terre crue.
Tout à fait. Donc on a analysé la terre du lieu et on a pu réaliser ces murs en pisé qui amènent une autre vision un petit peu de l'architecture.
Oui. Ah oui, c'est vrai que vous utilisez donc la terre du site, elle n'est pas importée.
Ah oui, non, c'est tout à fait, c'est essentiel, hein, parce qu'en fait dans une logique, parce que je pense que l'architecte doit redevenir un acteur politique et un petit peu militant, et je pensais que l'essentiel c'était d'éviter le transport, de réutiliser les matériaux locaux, et la terre crue c'est l'idéal parce que dans le cadre de la démolition par exemple elle ne provoque plus aucune énergie à la démolition, elle ne provoque aucune énergie à la construction, elle est aussi solide que le béton, elle peut durer des siècles, donc c'est un matériau je trouve parfaitement adapté. Il fallait prouver que c'était possible de construire d'une manière contemporaine et en même temps dans n'importe quel lieu.
Oui.
Et l'avantage, c'est qu'elle a la couleur de la terre.
Oui. La construction bois paille a attendu quelques années avant de gagner des garanties d'assurance. Pour la terre crue, c'est la même chose?
C'est assez compliqué aussi, parce qu'en fait, elle n'a pas de stabilité dans le sens où... on appelle ça du béton de terre, en fait, mais comme chaque terre est différente, il faudrait faire une norme pour chaque construction. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, mais actuellement, c'est en train beaucoup de bouger, parce qu'il y a beaucoup d'articles sur la terre, et donc ça, je pense que ça va bien évoluer dans les années à venir. Mmh. Donc pour l'instant, on triche un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, dans les constructions publiques, on peut mettre des ossatures de telle manière à ce que la terre ne porte pas, alors que bon, l'usage primaire de la terre, c'est bien de porter.
Parlons du coût, c'est intéressant, c'est économique de construire en terre crue?
Non, c'est pas économique parce qu'en fait, il y a beaucoup de main d'œuvre.
Ah oui.
Hein, donc, mais il faut vraiment qu'on l'utilise pour ses propriétés, pas forcément partout. Hein. Par exemple, dans nos régions, il y a beaucoup de champagne. Je trouve que ce serait idéal de faire des caves de champagne.
Bah oui, c'est ce que vous avez en projet, oui.
Ouais, j'ai deux projets comme ça avec des champenois bio, parce que ça bouge beaucoup la région et je trouve que c'est passionnant parce qu'on peut travailler la ventilation naturelle, on peut travailler des caves avec une température à 12 degrés. Enfin, c'est vraiment très intéressant comme matériau. Donc dans ces cas-là, c'est tout à fait concurrentiel.
Bon, avec votre honnêteté, Thierry, vous dites économiquement, c'est pas nécessairement intéressant, mais il y a un intérêt, c'est que c'est une maison qui vit.
Bien sûr, elle vit dans la durée, elle est extrêmement intéressante. Je parle même pas au niveau développement durable, c'est absolument incontournable. Hein. C'est surtout que les nouvelles réglementations qui vont bientôt arriver, thermique 2020, etc. C'est un matériau qui aura toute sa place.
Alors vous avez dessiné une ville aérodynamique qui devrait se construire en Libye.
Oui, ça c'était avant les événements libyens.
Ouais.
Et justement, c'était pour démontrer qu'on pouvait faire toute une ville, parce que il y a une grande. Actuellement, il y a comme Masdar, etc., aux Émirats Arabes Unis, où là, on met la technologie en avant. Et moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire, je voulais reprendre un petit peu ce qui se faisait en Iran, ce qui se faisait un petit peu partout. Et avec un groupe de personnes, on a travaillé sur l'aérodynamique avec le laboratoire Eiffel à Paris. On a fait plus de 60 maquettes et on a testé absolument toute la ville en aérodynamique. Donc, en fait, on a sculpté la ville. Les bâtiments étaient comme des sculptures qui permettaient à la ventilation de circuler et telle manière à ce qu'on puisse se passer de la climatisation.
C'est la première fois que j'entends un architecte parler en termes de sculpture. Vous êtes architecte sculpteur, en fait. Ouais. Vous avez publié aussi, il y a 2 ans, un ouvrage « Un pas vers la terre, construire en terre au 21e siècle ». C'est une démarche passionnante. Le site de Thierry, c'est thierrybonne2ne.com. Il y a une page Facebook aussi, et vous allez avoir les liens avec les films qui ont été réalisés sur les premières constructions, dessinées par et conçues par Thierry Bonne. Merci Thierry.
Merci à vous.
Le département de l'Aisne a connu une sombre page d'histoire qui prend une tournure commémorative très symbolique cette année avec le centenaire de la bataille du chemin des Dames. Le début de l'offensive française, l'offensive Nivelles, est daté du 16 avril 1917. Nivelles, nom qui reste associé à un échec cuisant et meurtrier alors que l'offensive devait permettre, selon les prévisions, de rejoindre la ville de Laon à 30 km du chemin en fin de journée. La bataille sur ce chemin d'une trentaine de kilomètres durera finalement jusqu'en juin. Drôle de nom quand même, chemin des dames, surtout si on associe ces dames aux filles du roi Louis XV, dont l'une se prénommait Victoire. La victoire, si ce terme a un sens, n'arrivera qu'en juillet 1918, lors de la troisième bataille de l'Aisne. Plusieurs villages furent anéantis, dont celui de Crane. Or, prononcez bien Crane et pas Crane. Crane fracassé en contrebas du site d'origine, Crane fut reconstruit, village porté par la chanson des contestataires des batailles impossibles du Caspip assuré. Il compte aujourd'hui à peine 80 habitants. Il va être pourtant un des hauts lieux du centenaire de la commémoration prévue les 15 et 16 avril prochains, avec un son et lumière le samedi 15 au soir, et puis une marche à l'aube qui partira du village sous le nom de « Sans casque et sans armes », première foulée, donc le dimanche 16 avril à 5h45, heure à laquelle des milliers de soldats se jetèrent dans la gueule du feu un siècle plus tôt. Ici, les seuls arrêts sont ceux des commentaires sur la bataille à plusieurs étapes. Des concerts hommages, des animations vont ponctuer le reste de la journée. Et puis l'ensemble du département est concerné par cette journée puisque de nombreux lieux de mémoire ont été labellisés par la mission centenaire de la Première Guerre mondiale et ils seront mis en lumière. Pour la grande histoire, parce qu'il n'y a pas de petite à cet endroit, parmi les soldats engagés dans la Grande Guerre se trouvaient de nombreux joueurs de rugby du Commonwealth et un monument, leur mémoire, sera également inauguré le 16 avril prochain. Vous allez trouver à notre page d'émission franceinter.fr et sur notre page Facebook le lien avec le programme du chemin des Dames pour les 15 et 16 avril, puis ça va continuer aussi dans le département, donc très très prochainement. Yvain Brochot, bonjour.
Bonjour, c'est Bertrand.
Yvain, vous présidez l'association Gaïa Saint-Gobain et vous êtes cofondateur du Festival des Verts Solidaires. Gaïa, la terre mère, la terre nourricière, c'était elle qui conditionnait la création de l'association à l'origine ?
Oui, tout à fait, oui. En fait, on a eu l'idée, quand on était encore assez jeune, de créer un festival de musique, en fait, mais qui serait pas seulement un festival, qui serait aussi l'occasion de militer à travers... soit des paroles ou des actes pour le respect de la Terre.
Oui. Et question acte, vous avez choisi quelle orientation ?
Alors l'idée, c'est d'inscrire toute l'organisation du festival dans une démarche d'intégration écologique. Par exemple, toute l'alimentation du festival est bio locale. Ça fait quand même plus de 6 000 repas. On accueille 10 000 personnes sur 3 jours.
Oui.
On a les toilettes sèches, on arrive à recycler quasiment tous nos déchets.
Et la musique reste le facteur premier ou aujourd'hui ce sont plutôt les rencontres autour des alternatives qui conditionnent le festival ?
Bah, c'est vraiment un mélange des deux. Ce qu'on a voulu, c'est qu'on a vraiment voulu partager le côté convivial et festif avec des moments de réflexion. Donc il y a quand même une vingtaine de concerts, il y a aussi de l'art de rue, des spectacles pour les enfants, et qui se mélangent avec des ateliers, des conférences, un assez gros village associatif sur les thématiques de l'écologie, la solidarité, voilà, des alternatives économiques.
Yvain, ce n'est pas toujours facile aujourd'hui de maintenir une activité, un événement culturel, parce qu'il y a plein de déficits, on le répète à chaque fois. Et puis parfois, il peut y avoir de la lassitude. C'est difficile de tenir une barque culturelle comme cela depuis 2004, hein, de la date de la création de l'association. Donc aujourd'hui, vous êtes tous bénévoles.
Oui, on est tous bénévoles. On est passé par une phase où on a eu des employés, enfin, une employée. Mais ça pesait trop pour nous, parce qu'on est vraiment... On n'est pas très très subventionné, on est vraiment dans l'autofinancement.
Oui.
Donc c'est pas tout le temps facile, mais on arrive à avoir une équipe qui se renouvelle bien. Ça, c'est un peu ça qui est fondamental, je pense. Enfin, il y a une belle énergie bénévole, donc ça fonctionne quand même bien, quoi.
Alors quand on dit Saint-Gobain, évidemment, on pense tout de suite au berceau du groupe Saint-Gobain qui est parti. Les derniers verres produits, d'ailleurs, je crois, ont permis de la fabrication, la construction de la pyramide du Louvre.
Ouais, c'est ça.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette friche industrielle ?
Ben, il reste une friche industrielle.
Oui.
mais malgré tout, il y a des initiatives assez intéressantes qui s'y passent. Il y a une association de recyclage d'insertion qui s'est installée dedans.
Ah oui.
Il y a d'autres choses qui sont développées dans le village au niveau de l'économie solidaire aussi. Oui. En lien avec le festival aussi. Il y a une SCOP qui a vu le jour, une boulangerie bio, une épicerie bio, il y a plein de... Voilà, ça a changé un peu de modèle économique, on va dire.
Ouais. Et alors, dans l'Aisne Nouvelle, un article publié le 22 février dernier faisait savoir que les organisateurs, en parlant de vous, du festival de musique programmé donc 18, 19 et 20 août prochain, lancent un appel à candidature aux groupes régionaux.
Oui.
Et vous continuez ?
Oui. Non.
Zut.
Non, ça s'est clôturé fin février, en fait. Donc là, on est dans la phase d'écoute et de sélection, parce qu'on avait beaucoup de... On a à peu près 80 groupes locaux qui ont fait acte de candidature.
Ah oui.
Donc c'est bien aussi. Ouais, donc il y a, en fait, il y a à peu près la moitié de la programmation qui est nationale et la moitié qui est faite pour mettre en valeur les groupes locaux.
Est-ce que c'est déflorer le sujet que d'annoncer quelques noms nationaux pour le prochain festival?
On fait un groupe de reggae qui s'appelle Ragasonic, qui était
oui.
Un groupe qui se reforme, qui était très connu dans les années de moi, ma jeunesse.
Oui. C'était
95-2000.
Oui.
Pareil, dans le style punk, il y a un groupe qui s'appelle Ludwig von 88, qui est un peu un groupe mythique de la scène punk à l'époque des Berruriers Noirs aussi, donc qui sera là. Et après, les styles sont très variés, il y a de la musique du monde avec Orange Blossom, encore du punk avec La Salle Majesté, il y a de la chanson aussi, enfin, c'est assez varié, quoi. On est sur un peu la thématique musique actuelle, donc ça passe par pas mal de styles.
Et vers solidaire, alors j'ai pas donné l'orthographe, parce que V-E-R-S, c'est le vers de la terre.
Non, pour nous, c'est le vers de la musique, en fait, c'est la poésie, quoi.
Ah!
Voilà. Ça veut dire la musique pour la solidarité, parce que un des projets du festival, en plus de militer et puis de s'inscrire dans une démarche d'économie locale et écologique, il y a aussi l'éventualité de soutenir des projets de solidarité qui soient locaux ou internationaux.
Oui.
Ça passe soit par des dons ou soit par des actions mises en place, mais il y a eu des dons, par exemple, à l'association Cocopelli, des choses comme ça.
Du 18 au 20 août à Saint-Gobain, la 13e édition des Verts Solidaires. Il y a une page Facebook, il y a le site verts-solidaires.org, et puis avec des têtes d'affiches qui vont être là. Et apparemment, cette année, c'est une scène de la Renaissance, vu les noms que vous avez déjà commencé à annoncer, plus les découvertes de la région. Merci Yvain.
Merci à vous Philippe.
La dramatique inondation qui a eu lieu ces jours derniers en Colombie m'a rappelé à l'ordre l'existence d'une association qu'on vous avait présentée à la rentrée qui s'appelle Partagence. Et Partagence, c'est le partage solidaire en action en lien avec les entreprises, les pouvoirs publics en aide aux populations sinistrées. Partagence est en train d'achever un long programme post-urgence suite aux inondations de juin dernier dans le sud Seine-et-Marne. Et l'association a toujours besoin de différents éléments, de matelas, sommiers, de personnes, des tables, des chaises, des canapés, des commodes, des chevets, des buffets, des meubles de cuisine ou de salle de bain. Mais attention, cet appel est lancé uniquement à destination des entreprises. Hein. Et le don de matériel neuf issu des entreprises donne droit à une déduction fiscale. Il n'y a pas de don de particulier, mais vous allez trouver, chers amis, si vous avez une entreprise et que vous êtes, vous pouvez participer à cette solidarité, partagence.org, l'adresse s'affiche à notre page d'émission. Avant de rejoindre Nicolas Stoufflet, je rappelle qu'au mois de mai, nous serons dans le Gers, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et la Drôme. Merci pour vos messages, Nicolas.